C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur LFM.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent. TAFTA ou TTIP ou encore CETA, voici les doux noms des accords de libre-échange négociés en ce moment entre l'Union européenne et les États-Unis ou déjà conclus entre le Canada et l'Union européenne. Mais que disent ces accords? Quels seront leur impact sur notre quotidien? À qui profiteront-ils? C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec nos invités. Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France, une association qui défend le droit des citoyens à une alimentation de qualité, et Denis Voisin, porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot.
Les États-Unis et le monde entier ont besoin d'une Europe puissante, prospère, démocratique et unie.
Le but, c'est d'avoir les mêmes normes, soi-disant pour faciliter les échanges.
Il ne pourra pas aboutir s'il n'apporte pas les garanties que le niveau d'exigence que nous avons en France pour la santé et l'environnement de nos concitoyens sera maintenu. Et aujourd'hui, nous sommes trop loin du compte pour envisager un accord.
Pour nous, pour nos entreprises, notamment pour nos petites et moyennes entreprises, TAFTA, c'est une grande opportunité.
Il faut que et les parlementaires et les citoyens soient associés de bout en bout à ces négos, sinon ça ne fonctionnera pas.
Aujourd'hui, on ne voit aucune valeur ajoutée dans cet accord, aucun bénéfice pour nous, citoyens européens. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des bénéfices pour les citoyens américains non plus.
Le vrai problème, c'est que c'est quelque chose qui va porter sur tout, de l'alimentation jusqu'à la couleur des clignotants, et qu'il est normal que nos politiques soient au courant de ce qu'il y a dans ce traité.
Je condamne formellement cet accord, j'espère qu'il échoue, et je ferai tout pour ça.
Si rien ne change, dans un avenir raisonnable et dans le courant de l'année 2016, la France en tirera les conséquences, demandera l'arrêt des négociations et nous travaillerons avec nos partenaires européens en ce sens.
C'est pas du vent sur RFI.
Le mix spécial TAFTA de Jérémy Besset avec les voix de Barack Obama, Thomas Porcher, Manuel Valls, Sandro Gozzi, Mathias Fekel, Jean-François Julliard et Jean-Luc Mélenchon. Karine Jacquemart et Denis Voisin, je vous vois prendre des notes. Vous voulez réagir peut-être à ce mix?
Oui, ça me. J'avoue que j'ai toujours un petit sourire quand j'entends Manuel Valls finalement parler du TAFTA, et c'est une bonne chose que finalement au plus haut niveau du gouvernement on finisse par en parler de façon publique. Mais alors qu'il parle de garanties du point de vue de la santé et de l'environnement, et en disant on est loin du compte sur le TAFTA, nous sommes d'accord avec Manuel Valls. Nous aimerions qu'il dise la même chose de l'accord avec le Canada qu'il soutient pour le moment.
Mais vous pensez qu'il y a un double discours de la part de l'État français, Denis Voisin?
Alors, un double discours. En tout cas, aujourd'hui, on a entendu quelque chose de positif. C'est la reconnaissance du risque sur le TAFTA, un risque qui a été donc reconnu à la fois par le président de la République, par le Premier ministre. L'important, c'est qu'aujourd'hui, ils comprennent que ce risque, il est le même pour le traité avec le Canada. C'est-à-dire que le traité avec le Canada, s'il entre en vigueur, c'est le loup qui rentre dans la bergerie. On aura les mêmes conséquences. Je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui, 80% des multinationales américaines ont des filiales au Canada et qu'elles pourront utiliser les mêmes mécanismes dangereux dont on a parlé et dont on reparlera pour attaquer l'Union européenne et les pays de l'Union européenne. Donc on a aujourd'hui un risque très important et clairement on demande au gouvernement de le comprendre et de se prononcer contre le CETA de la même façon qu'ils viennent de tirer des conclusions sur le TAFTA.
Mais ce qui est fou, c'est que quand on entend les politiques, on a l'impression que cet accord de libre-échange, le TAFTA, ne convient pas à grand monde, même aux partisans du libre-échange. Or, il y a derrière, c'est vrai, cet accord avec le Canada, cette fois-ci, le CETA donc, qui lui pourrait entrer en vigueur dès 2017.
Voilà, mais soyons clairs, ce serait formidable si la rhétorique que l'on entend ces jours-ci, qui s'inquiète du TAFTA, en fait s'inquiétait de l'impact sur nos règles et nos normes, encore une fois, de santé publique, d'alimentation, de protection des citoyens et des consommateurs. Ça n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il y a tout ce bruit autour du TAFTA, c'est parce que les États-Unis, contrairement au Canada, ne veulent pas donner accès aux entreprises européennes à leur marché public. Et parce que les États-Unis ne veulent pas protéger les indications géographiques dont le gouvernement a fait une espèce de fer de lance. Le Canada a accepté ces deux choses-là économiques. Et c'est ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on en reste à des arguments économiques. La réalité, c'est que le TAFTA, comme le CETA, posent des problèmes et mettent vraiment en danger des aspects de santé publique et des choses qui touchent au quotidien des gens. Et ça, le gouvernement ne le relève pas. En pointillé, ce qu'on comprend, c'est si les États-Unis acceptaient ce que le Canada a accepté en termes d'accès au marché public, eh bien, ça irait très bien. Eh bien, nous disons non. Nous attendons du gouvernement qu'il apporte des garanties et qu'il protège tout simplement notre capacité démocratique à choisir de nos règles de vie. Or, les législateurs, nos députés, nos représentants élus, auront une influence, une capacité à légiférer demain extrêmement réduite si le TAFTA et le CETA passent.
Alors, un mot sur les tribunaux arbitraux. On en a déjà un peu parlé dans la première partie de cette émission. Vous nous disiez que c'était une justice à sens unique, hein, puisqu'une entreprise peut attaquer un État, mais pas l'inverse. Mais très concrètement, Denis Voisin, qui compose ces tribunaux ?
Alors, ce sont des juges qui seraient nommés par les États, en tout cas dans le cadre du CETA, puisqu'on en sait un peu plus sur cet accord, puisqu'il est, il est paru. On aurait des juges qui seraient nommés en partie par les États, et qui seraient donc des juges nommés, mais qui seraient rémunérés avec une base fixe, mais des intérêts liés aux procédures. Donc on a un problème de conflit d'intérêts autour des juges qui seraient nommés dans ces tribunaux. Et puis le fait est que ce serait effectivement à sens unique, comme vous l'avez dit. Donc ça bénéficierait aux entreprises étrangères qui pourraient choisir leur juridiction, soit le droit national, soit le droit international, s'il est plus préférable, plus avantageux pour eux, et elles pourraient attaquer les États. Les États sont toujours perdants dans ce cadre-là, finalement, puisqu'il n'y a pas de réciprocité. Eux ne peuvent pas attaquer une entreprise qui mettrait en péril la santé de leurs citoyens ou le climat.
Karine Jacquemart, la composition de ces tribunaux vous inquiète-t-elle ?
Oui, absolument, parce que, enfin, on marche véritablement sur la tête. Je ne comprends même pas pourquoi on en discute encore. Et ce qui est dans le CETA, c'est une nouvelle proposition un petit peu réformée de la part de la Commission européenne qui prétend que tout est réglé. Pas du tout. On parle de 15 arbitres qui viennent du secteur privé et qui ne sont contrôlés par aucune magistrature indépendante. C'est-à-dire, on crée un système parallèle de justice où, en fait, ce ne sont pas des juges et il n'y a pas de magistrature indépendante. De quoi parle-t-on ? Surtout quand on parle entre l'Europe et les États-Unis ou l'Europe et le Canada, clairement, il y a des systèmes de justice qui fonctionnent dans ces pays-là, d'où un besoin de créer quelque chose de spécifique pour donner des pouvoirs exceptionnels à des multinationales.
Mais comment des États peuvent-ils accepter cette perte de souveraineté, finalement ?
Alors là, je partage complètement cette question, c'est-à-dire que... Non seulement je ne comprends pas comment ils peuvent l'accepter, mais je pense qu'il est de leur responsabilité de le refuser avec force. Protéger les droits de base d'investisseurs comme on protège les droits de tout un chacun, bien évidemment, on n'est pas en train de dire que si une décision arbitraire était prise, un investisseur n'aurait droit à rien. Dans le cadre du droit national de nos États, ou même du droit européen, bien sûr. Mais pourquoi créer quelque chose de parallèle et de spécifique pour eux, ça n'a aucun sens et c'est inacceptable.
Alfred Dezayas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'expert indépendant des Nations Unies pour la promotion d'un ordre international démocratique et équitable. Pour vous, l'arbitrage entre nations et investisseurs privés est un système illégitime et doit être aboli. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Bon, d'abord parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Si vous me demandez, je vous dis, c'est une mascarade. C'est la même chose qu'avant, en principe, pire. Parce que dans le système qu'on connaît maintenant, c'est bien asymétrique, bien sûr. Le nouveau système est aussi asymétrique, mais les nombres de potentiels plaignants, c'est-à-dire les nombres de concernes, de transnationaux qui pourront présenter des plaintes contre les États, qui pourront faire une ingérence contre la protection de la santé, contre la protection du niveau de travail, des conditions de travail, etc., sera multiplié par 10. Alors, c'est une chose tellement aberrante qu'on ne peut pas comprendre. Mais surtout, ce n'est pas nécessaire du tout. Un investisseur, une entreprise transnationale, elle a la possibilité de présenter une plainte devant la Cour nationale. Et les cours de la France, de l'Allemagne, de l'Italie peuvent trancher sur ces affaires. Et si on n'est pas content avec la décision, on peut aller en appellation, on peut aller même à la Cour européenne des droits de l'homme si on pense que son droit à la propriété a été violé. Alors, c'est-à-dire, il y a tous les recours nécessaires. Mais il y a les intérêts des transnationales, de l'industrie pharmaceutique, etc., qui veulent partout davantage de profits.
Mais alors, comment expliquer qu'à partir du moment où une législation des États membres de l'Union européenne existe déjà, comment expliquer, même question que j'ai posée à Karine Jacquemart et Denis Voisin, comment expliquez-vous que les États peuvent accepter d'être affaiblis à ce point ? C'est vrai que ça paraît incroyable.
Absolument aberrant. Vous savez que j'ai dédié mon rapport 2015 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur soi-disant libre commerce. J'ai dédié mon rapport à l'Assemblée générale sur cette procédure d'arbitrage. J'ai montré pourquoi ils violent toute une série d'articles précis du pacte relatif aux droits civils et politiques, du pacte relatif aux droits économiques, socioculturels, et aussi même la ontologie des États. L'ontologie d'un État, c'est la protection de la population, de tout le monde, sous la juridiction de l'État, dans les domaines de la santé, dans les domaines de la protection de l'environnement, etc. Et il y a une situation aberrante où les États qui ont ratifié le pacte des droits civils et politiques, des droits économiques, socioculturels, les États qui sont viennent d'engager à Paris dans les COP 21, qui viennent de s'engager à New York pour les objectifs du développement de 2030, ils ne peuvent pas achever ni les COP 21, ni les objectifs du développement s'ils sont sous la menace d'être demandé de payer 15 milliards de dollars si on va refuser le permis pour construire une pipeline. Alors je suis totalement d'accord avec Karine et je suis totalement d'accord avec la diagnose de Denis. Alors ils ont raison, mais ce n'est pas la diagnose qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est un plan d'action. J'ai formulé un plan d'action dans mon rapport au Conseil des droits de l'homme. Et j'ai formulé même des questions que l'Assemblée générale pouvait envoyer à la Cour internationale de justice afin d'avoir un avis consultatif qui dirait que alors le système de ISDS et le système de Investment Court System sont contraires au plus fondamental des droits internationaux.
Fred de Zayas, alors attendez, je vais repasser la parole un petit peu à Karine Jacquemart, qui est à mes côtés et qui voulait rajouter un petit mot. Karine Jacquemart, qu'est-ce que vous voulez rajouter au propos d'Alfred de Zayas ?
Tout d'abord, il est précieux d'avoir l'analyse de quelqu'un comme M. de Zayas, expert aux Nations Unies, et qui nous rappelle qu'il y a des droits autres que des droits pour les investisseurs, des droits de commerce qui existent, il y a des droits humains et autres chartes à respecter. Mais ce qui est encore plus inexplicable, c'est que je voulais rajouter une petite anecdote. Il est admis par tout le monde, et c'est même dans un rapport de l'Institut Delors, donc pour le moins sérieux, qu'il n'est même pas prouvé que ce système d'arbitrage et de mécanismes de tribunaux privés contribue à attirer effectivement plus d'investisseurs. Parce que c'est ça, en fait, le prétexte. C'est, mais vous comprenez, il faut ça pour que les investisseurs viennent. Or, il n'est absolument pas prouvé, au contraire, que ce mécanisme permette d'avoir plus d'investissements. Donc, prendre autant de risques, effectivement, sur les droits de l'homme, sur la capacité à légiférer des États pour un résultat, là encore, absolument hypothétique et incompréhensible.
Alfred de Zayas, de façon très concise, est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est au peuple de décider par référendum, pourquoi pas ?
Absolument.
Oh bah c'était vraiment concis. c'est concis, je vous en remercie. Après, on sait que les États ne respectent pas toujours les décisions prises par référendum, mais ce serait un risque à prendre selon vous ?
Dans ces cas-là, on va à la rue. Il y avait 250 000 citoyens allemands qui ont démontré à Berlin. Il y a 90 000 citoyens allemands qui ont démontré à Hanovre. Alors j'aimerais bien voir 1 million qui vont démontrer à Paris. J'aimerais bien voir 1 million qui vont démontrer à Londres. Parce que c'est nous, les citoyens, qui vont souffrir les conséquences de ces traités. Et comme je l'ai dit, le problème, c'est que les traités ne sont pas du tout nécessaires. Les commerces marchent. Les commerces fonctionnent très bien.
Alors, merci Alfred de Zaya, je vous coupe, merci beaucoup. Le temps passe malheureusement très vite, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes l'expert indépendant des Nations Unies pour la promotion d'un ordre international démocratique et équitable. C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons du TAFTA et du CETA, des accords de libre-échange controversés entre l'Europe et les États-Unis d'une part et l'Europe et le Canada d'autre part. À qui profiteront-ils? On en parle avec nos invités, Denis Voisin, porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot, et Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France. Alors, la principale étude économique brandie par la Commission européenne pour vanter les effets potentiels du traité transatlantique prédit un gain pour l'économie européenne de 119 milliards d'euros d'ici 2027. Que pensez-vous de ce chiffre, Karine Jacquemart? Parce que tout est question de business, finalement.
Oui, tout est question de business, mais ce qui est quand même affligeant, c'est que tout est question de business, sauf qu'aucun de ces chiffres n'est solide, quoi, si vous voulez. D'ailleurs, personne ne prétend avoir de chiffres solides. D'ailleurs, l'Assemblée nationale et le Sénat en France ont réclamé à plusieurs reprises, à travers des résolutions officielles, des études d'impact, aussi bien pour le TAFTA que pour le CETA. On ne les a toujours pas. Un autre chiffre qui est sorti sur l'accord avec le Canada, le CETA, toujours disponible sur le site de la Commission européenne, une étude de 2008, si on la ramène au nombre d'habitants en Europe, ça apporterait 2 euros par habitant par mois en Europe. Alors 2 euros, le principe de précaution, c'est pas cher.
C'est sûr que ça fait pas beaucoup. Les exportations de l'Europe grimperaient de 6% et celles des États-Unis de 8%. Même question, Denis Voisin, que faut-il penser de ces chiffres? Et est-ce que la croissance mérite que l'on sacrifie ce qu'il y a dans nos assiettes et plus encore?
La réponse est clairement non. Il y a un certain aveuglement aujourd'hui et court-termiste de nos chefs politiques, c'est-à-dire qu'on a des traités qui existent parce qu'on se focalise sur le court terme et on espère, sur la base d'études qui sont effectivement pas contradictoires, qui sont aujourd'hui très discutées, on espère qu'on va créer peut-être des emplois, peut-être qu'on va générer quelques centièmes de points de croissance annuellement en plus. Tout ça, c'est du peut-être. Et c'est pour ça que ces traités ne résisteraient pas à la lumière, et c'est ce qu'on espère aujourd'hui. C'est pour ça que si on a un référendum national, probablement qu'il n'entrerait pas en vigueur. Parce que quand on demande aux gens, est-ce que vous préférez pour 2 euros prendre finalement tous les risques et risquer des cancers, des maladies, etc., et voir votre qualité de vie se dégrader de façon certaine pour peut-être hypothétiquement avoir une croissance un peu supérieure, et à qui bénéficiera-t-elle? C'est une autre question, puisque ces traités, on le sait, bénéficient aussi beaucoup aux multinationales, très peu aux PME, il y a des processus asymétriques, donc on a des vrais enjeux là-dessus aujourd'hui, et je pense vraiment que c'est le résultat d'un certain aveuglement et court-termiste de la politique aujourd'hui.
Alors, quelle est la place des lobbies dans ces négociations? Pour le savoir, direction Bruxelles, nous sommes en ligne avec Laura Vérec. Bonjour Laura Vérec.
Bonjour.
Vous êtes chargée de campagne à Corporate Europe Observatory, une association basée en Belgique, donc spécialiste des questions de lobbying sur les politiques européennes. Quelle est la relation entre les négociateurs européens du TAFTA et les lobbies des grandes entreprises?
Cette relation, elle est très très proche. On a pu le voir quand on a demandé à la Commission ses réunions externes. Lorsqu'on a reçu la liste de 597 réunions externes de la Commission sur le TAFTA, on a vu que 88% de ces réunions étaient avec le lobby des grandes entreprises.
Et qui sollicite ces lobbies?
C'est la Commission elle-même qui soit demande une réunion, ou les lobbies qui demandent une réunion à la Commission et qui voient les portes très grandes ouvertes.
Mais comment vous l'expliquez? Quel est l'intérêt pour l'Union européenne de faire appel à ces lobbies?
Mais Le traité, elle le négocie pour eux, pour qu'ils puissent exporter plus. Donc elle va d'abord chercher leur avis avant d'écouter les consommateurs ou les syndicalistes ou les associations environnementales qui viendraient en fait parler des menaces, puisqu'en fait exporter plus, ça va venir à un prix.
Mais quand on a des lobbies de l'industrie agroalimentaire qui préconisent l'utilisation de pesticides ou de grandes exploitations qui ne correspondent pas forcément au modèle agricole français, ça pose problème ça?
Oui, ça pose problème, surtout que ce qu'on a vu dans des documents de la commission qu'on a demandé, c'est que la commission, avant le début des négociations du TAFTA, est allée elle-même chercher le lobby des pesticides pour leur demander leur contribution. Donc là, on a eu la commission qui a fait du lobbying auprès du lobby des pesticides.
Ah oui, donc c'est vraiment c'est le serpent qui se mord la queue. C'est, ça vous fait rigoler, Karine Jacquemart, mais c'est quand même incroyable ce que nous dit Laura Vérec.
Et moi, j'avoue que j'ai cette expression qui fait rire mes collègues, d'ailleurs, qui me revient tout le temps en bouche. On marche sur la tête. Enfin, oui, quand c'est la commission qui lobbie les lobbies, comme beaucoup de choses dont on a parlé depuis le début de cette discussion, on marche sur la tête. Enfin, tout ça n'est pas acceptable.
Laura Vérec, comment expliquez-vous que l'Union européenne n'ait pas réussi à interdire l'import des sables bitumineux du Canada ?
Justement, parce qu'au même moment, on était en cours de négociation du traité avec le Canada, le CETA, et ce qu'on a vu, c'est qu'une demande du gouvernement canadien, c'est justement de ne pas interdire ces sables bitumineux.
Oui, donc ça, là, encore une fois, ça pose le même problème. Dernière question, la Commission accuse un retard de plus de 2 ans pour nous protéger des perturbateurs endocriniens. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, pourquoi ? Parce qu'on négocie en ce moment et qu'une des préoccupations du gouvernement américain, c'est justement cette définition. Puisque la définition, c'est la définition des critères scientifiques. Une fois que ceux-ci seront établis, on risque d'interdire en Europe de nombreux pesticides, dont la plupart sont produits par des entreprises américaines.
Rassurez-nous, quelle est la place des citoyens dans ces débats ? Elle existe ?
Non, hélas, non. Puisqu'il nous faut des organisations comme Greenpeace pour connaître l'état des négociations, puisque malgré la consultation publique où 97% des personnes qui ont répondu ont demandé de ne pas avoir de tribunaux d'arbitrage dans les traités, malgré tout cela, ils sont encore dans le TAFTA, qu'on appelle aussi TTIP à Bruxelles, et dans le CETA. Donc malgré les consultations publiques, la Commission n'écoute pas la voix des citoyens européens.
Bien écoutez, ce n'est pas très rassurant, mais merci quand même de nous avoir éclairé sur le sujet, Laura Vérec. Je rappelle que vous êtes chargée de campagne à Corporate Europe Observatory, une association basée à Bruxelles, spécialiste des questions de lobbying sur les politiques européennes. Vous souhaitez réagir un petit mot ? Oui, alors les deux doigts se lèvent, honneur aux dames, Karine Jacquemart.
Oui, ce sur quoi Laura a mis le doigt, c'est un système qui va être aggravé par le système de coopération réglementaire dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on voit le poids déjà des lobbies sur effectivement une décision comme celle que devait prendre la Commission européenne de donner une définition des perturbateurs endocriniens, et les lobbies en Europe ont réussi à freiner ça avant même que le TAFTA ou le CETA soit signé, imaginons un peu comment seront freinés nos responsables politiques et la Commission européenne pour décider de nouvelles règles quand les lobbies américains et canadiens auront, par le biais de la coopération réglementaire, une voix directement et une influence quasiment directe sur nos décisions en Europe.
Alors pour finir, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission malheureusement, où en est-on de ces accords ? Le CETA pourrait entrer en vigueur de manière provisoire dès 2017, avant même que les parlements nationaux aient ratifié cet accord. Comment est-ce que c'est possible ça, très concrètement ? Qui veut répondre ? Karine Jacquemart ?
Alors, ce qui va se passer, le TAFTA, les négociations sont un petit peu enlisées, on l'a compris. Bon, mettons ça de côté. En revanche, l'urgence, c'est qu'effectivement, l'accord, le texte du CETA est sur la table, il est final. Alors, il doit être validé à 3 moments. Le premier, c'est par le Conseil de l'Union européenne. Donc, les ministres qui représentent les 28 États membres doivent vraisemblablement au mois de septembre décider d'adopter ou non ce texte. Ensuite, il devra passer devant le Parlement européen. Et si, comme nous le pensons, il sera confirmé qu'il s'agit d'un accord qu'on appelle mixte, c'est-à-dire dont certaines parties relèvent de l'autorité des compétences nationales, il devra ensuite, dans une troisième étape, être validé par les parlements nationaux des 28 États membres. Problème, il sera mis en application provisoire tel que c'est prévu aujourd'hui, dès le vote au Parlement européen et donc avant toute consultation de nos parlements nationaux, de l'Assemblée nationale et du Sénat en France. Et cela, nous trouvons que c'est inacceptable. Il ne peut pas y avoir d'adoption et de mise en application provisoire de tout ou partie de cet accord, compte tenu de ces enjeux, avant que le Parlement national soit consulté et qu'il y ait un débat public en France.
Même question pour le TAFTA, Denis Voisin. On en était au 13e cycle de négociations révélé donc par l'ONG Greenpeace. Initialement programmé pour la fin 2015, la conclusion des négociations n'aura pas lieu avant 2017. Est-ce que ça laisse du temps pour négocier ou est-ce que le combat est perdu d'avance ?
Alors effectivement, nous sommes moins inquiets sur le TAFTA puisque les réticences américaines apparaissent finalement au grand jour aussi dans les documents qui ont fuité. Et puis quand on écoute les candidats finalement, on sait qu'il y aura des élections bientôt aux États-Unis et que les candidats sont a priori tous très peu favorables à ce traité. Donc on est beaucoup moins inquiets que sur le CETA où tout va se jouer dans les mois qui viennent et où effectivement c'est très important qu'il n'entre pas en vigueur avant que les citoyens français puissent se prononcer et au moins le Parlement français sur ce sujet.
En tout cas, voilà, de grands accords de libre-échange se font partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, entre la Chine, l'Inde, en Afrique. On voit bien que nous sommes dans une logique de confrontation de grands blocs économiques régionaux et ça va être difficile à empêcher. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous expliquer ce qu'était le TAFTA et le CETA. C'est vrai que c'est assez technique, mais c'était passionnant. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. À la technique et à la réalisation cette semaine, c'était Jérémy Besset. Très bonne journée à tous. À suivre une bande-annonce, puis un nouveau journal sur la Radio du Monde.